Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Une quarantaine de civils tués en trois semaines par des EDF à Bénouville. La société civile dénonce ces nouveaux massacres des innocents et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. L'armée, elle, appelle la population à bien canaliser les alertes. Plus de 15 ans de décentralisation en RDC, mais le développement des provinces tarde à venir. Qu'en est-il de cette situation? Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pense que l'échec de la décentralisation est dû notamment à la mauvaise gestion et au non-respect des principes constitutionnels. L'invité de ce matin, Giuseppe Angelini, membre de l'Union européenne au département des affaires humanitaires et protection civile. En séjour à Goma, il nous parle notamment du financement de l'Union européenne pour des projets humanitaires dans la région des Grands Lacs. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part de la ville de Beni, au Nord Kivu. Une quarantaine de civils ont été tués en l'espace de trois semaines par les rebelles des EDF. La dernière attaque survenue vendredi dernier a fait 15 morts, dont 6 femmes, au quartier Sayo. Des voix s'élèvent pour réclamer des opérations militaires d'envergure pour enrayer cette vague de tueries dans cette région qui connaît malheureusement un regain d'activisme des rebelles des EDF. Le point avec Marc Marofimbo.
Mangina, Mavivi, Sayo, Bunji, Matembo, Mutube, Kasangatuha, depuis trois semaines, les rebelles des EDF sèment terreur et désolation dans la ville et territoire de Beni au Nord Kivu. Alors que cela faisait plusieurs mois qu'une accalmie était observée dans la région et contrairement à leurs habitudes pendant les mois de Ramadan, les rebelles des EDF ont renoué avec les attaques causant des dizaines de morts. Le 4 mars dernier, 5 civils ont été tués à Mangina où des dizaines de maisons de commerce ont également été incendiées. À Mavivi, la semaine dernière, 9 civils ont été tués dans la forêt de Mutube. Plus récemment à Sayo et Kasangatuha, dans la ville de Beni, 15 civils ont été sauvagement tués, dont 6 femmes. La société civile dénonce ces nouveaux massacres d'innocents et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. Maître Pepe Kavota est le président de la société civile, coordination urbaine de Beniville.
Il est urgent que les autorités à tous les niveaux, et surtout celles de l'état de siège, doivent s'activer pour mettre fin à cette barbarie.
De son côté, l'armée appelle la population à bien canaliser les alertes et d'éviter de tout mettre sur les réseaux sociaux, car infiltrés par l'ennemi. Pendant ce temps, des voix s'élèvent afin que les opérations conjointes FRDC et PDF soient élargies dans cette partie ouest de la ville et territoire de Beni, sous menace permanente des rebelles des EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Entre-temps, la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, toujours à Beni, pointe du doigt des éléments des FARDC affectés dans cette zone il y a un mois. Ces derniers ont blessé par balle 3 civils en début de week-end dans le quartier Vimbwembwe, commune rurale de Boulongo. C'est à 40 km de Beni sur l'axe Kassindi. D'après la nouvelle société civile, ces éléments extorquent des téléphones portables et de l'argent des populations. Cette structure citoyenne dit craindre que ce comportement n'affecte le mariage civilo-militaire et appelle les responsable militaire à tout mettre en œuvre pour que les militaires auteurs de ces forfaits soient sanctionnés. Meleki Moulala, joint par Marc Marofimbo.
Les responsables des différentes unités doivent voir comment travailler sur la manière de faire de nos jeunes militaires récemment affectés à Boulongo, même à Mutuanga, parce que nous avons beaucoup souffert et cette population a beaucoup traversé. Ce n'est pas encore le moment de les traumatiser et maltraiter, mais c'est le moment de les conscientiser, le moment de les donner le courage de vivre ensemble, à cohabiter avec les militaires. En tout cas, c'est le moment de renforcer notre mariage civilo-militaire qui était vraiment compliqué la fois passée. Et ces gens-là sont connus par les victimes. Ils doivent être traqués dans différentes unités pour qu'ils soient punis conformément aux lois militaires pour décourager d'autres éléments qui se donnent le courage même d'ériger des barrières à pleine cité, aux environs de Mutuanga pour rationner la population, mais aussi multiplier des séances de sensibilisation de nos militaires parce que ce sont des nouvelles unités.
Pas de réaction de l'armée pour le moment, mais une source militaire dans la zone renseigne que des enquêtes sont en cours avec le concours des autorités locales afin d'arrêter les militaires auteurs de ces actes. Nord Kivu toujours, justice, la peine de mort. C'est le verdict prononcé samedi dans la soirée par le tribunal militaire de garnison de Goma contre le soldat de deuxième classe de la garde républicaine. Le condamné était poursuivi pour deux chefs d'accusation, à savoir meurtre et dissipation des munitions de guerre. Les familles des victimes exigent l'exécution immédiate de la sentence du tribunal. Gabriel Ouaménia.
Coiffé de son béret rouge et entouré de ses avocats, lorsque le capitaine magistrat Biamungu Munanire prononce la peine de mort contre le soldat Endondo Engulu, ce dernier est condamné in solidum avec l'État congolais au paiement d'amende aux familles des victimes. Pour la petite histoire, ce soldat s'est, dans la soirée du 9 avril, introduit dans un restaurant en compagnie de son compagnon d'armes habillé en tenue civile. Après avoir été servi par les responsables de l'auberge, le soldat condamné s'est emparé farouchement du téléphone d'un autre client trouvé dans la buvette. Pendant que le propriétaire de l'auberge voulait savoir pourquoi ce soldat avait pris le téléphone de son client, le condamné a directement ouvert le feu sur le propriétaire du bistrot en tirant 3 balles, l'esquivant sur les coups. Dans sa colère, il tire sur un autre client qui décède et par mégarde, il tire aussi sur son compagnon d'armes en tenue civile qui meurt également. Le soldat tueur est alors maîtrisé par son compagnon d'unité venu sur les lieux du crime. L'homme sera remis ensuite à la justice. Après les prononcés, les familles des victimes exigent que ces soldats soient exécutés publiquement afin, disent-ils, de dissuader d'autres potentiels criminels. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, lancement officiel ce week-end à Kinshasa de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la résolution des conflits par les modes alternatifs, incluant les négociations, la facilitation, la médiation et l'arbitrage. Campagne lancée par le Centre d'arbitrage et de règlement amiable des différents RDC. Le médiateur agréé de ce centre recommande l'implantation des cellules de règlement des conflits dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises et même dans les églises au regard de la multiplicité des formes de conflits dans le pays. Romain Condé, également membre du panel global de médiation des Nations Unies, pense que les conséquences de ces conflits continuent à retarder le développement de plusieurs villes et villages de la RDC. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le conflit au Congo, on ne les explique pas. Nous les vivons chaque jour et nous dormons avec les conflits. Il est vraiment nécessaire que nous puissions changer les fusils d'épaule en considérant le voie des résolutions pacifiques des différends pour que nous puissions vider tout ce qu'il y a comme séquelles parce que le pays a été déchiré par les conflits à plusieurs reprises, des conflits très violents qui doivent certainement avoir laissé un impact et continuer à avoir les conséquences sur la société, sur nos églises, sur nos institutions. Les conséquences vont perdurer. Il est temps que nous puissions chercher à approcher toutes ces questions avec la mise sur pied des mécanismes combinés à la fois de justice et de réconciliation pour que nous puissions continuer à vivre ensemble, que nous ayons la possibilité de construire un avenir. Nous sommes dans une société où le recours au mode d'adversité, d'affrontement qui nous oppose est une tendance généralisée.
Notez que cette première phase de campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la résolution des conflits par les modes alternatifs se tient dans les universités de la RDC, notamment l'UNIKIN et l'UPN. Dans l'actualité aussi, plus de 15 ans depuis la mise en œuvre de la décentralisation en RDC, le développement des provinces tarde à venir. La crise institutionnelle au niveau des provinces est devenue trop récurrente alors que les institutions provinciales sont même privées des moyens pour leur politique. Qu'est-ce qui explique que c'est que certaines opinions qualifient d'échec de la décentralisation en RDC alors que sous d'autres cieux, elle est la clé d'un développement à partir de la base? Tentative de réponse avec Michel Kifindangoy.
À en croire le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'échec de la décentralisation est dû notamment à la mauvaise gestion et au non-respect des principes constitutionnels. Cyril Kimpu-Awel.
La première raison, c'est le manque d'hommes et de femmes à la tête des institutions, les hommes intègres. La deuxième raison, c'est l'impunité qui continue à régner dans nos provinces. des responsables qui dilapident des ressources mises à leur disposition. Le manque de contrôle sérieux, surtout que les ressources restent très très limitées.
Que donc faire pour améliorer la gouvernance multiniveau en RDC? Professeur Ngoma Binda répond.
La décentralisation devrait être une étape vers le fédéralisme de notre pays. Des millions de kilomètres carrés doivent être gérés à la base, mais telle qu'elle fonctionne, la décentralisation n'est pas efficace. Rien que pour avoir la rétrocession des 40% fixée par la Constitution, c'est tout un problème.
Pour le professeur Ngoma Binda, la décentralisation, mieux le fédéralisme, reste la meilleure forme de l'État adaptée pour le développement des vastes pays comme la RDC.
Et justement, en parlant de difficultés de fonctionnement des institutions provinciales, le nouveau rapporteur adjoint élu du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central appelle son institution à travailler en harmonie parfaite avec le gouvernement provincial pour la cause du peuple. Billy Ntunga l'a dit juste après son élection au bureau définitif de cet organe délibérant. Reconduit à ce poste, il atteste que l'expérience du passé a démontré qu'il existait une volonté manifeste de la part du gouvernement provincial de déstabiliser le bureau de l'Assemblée provinciale, d'où son souci de voir ces institutions travailler pour l'intérêt du peuple. Billy Ntunga au micro de Nana Plurish Mambo.
Donc nous avons ciblé les choses en fonction de la volonté de la population. Ce qui est fait, je pense que maintenant il est temps de nous mettre au travail pour accompagner la vision des chefs de l'État qui va permettre le vrai développement dans le Congo central. Vous avez vu à la législature passée, il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation de l'Assemblée provinciale. Et quand on veut déstabiliser de l'Assemblée provinciale, on passe par le bureau. Quand le bureau cède, eh bien c'est toute l'Assemblée provinciale qui s'ébranle. Un membre du bureau doit avoir les épaules larges. Un membre du bureau doit rester droit dans ses bottes. Je l'ai dit par expérience, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à la législature dernière où il fallait hypothéquer les intérêts de la population et il fallait passer par le bureau et pour déstabiliser toute l'Assemblée et punir davantage la population. J'étais celui qui avait dit non. Et ça, je pense que nous devons éviter ce genre de choses, raison pour laquelle je souhaite que les deux institutions puissent fonctionner en harmonie et de façon que l'une ne cherche pas à déstabiliser l'autre pour des intérêts mesquins.
Direction la province du Kwilu, une dizaine de morts et une cinquantaine de disparus et des blessés. C'est le bilan encore provisoire livré hier après l'éboulement des terres survenu samedi 13 avril au bord de la rivière Kasai dans le territoire d'Idiofa, précisément à Dibaya Lubwe, cité où se tient chaque samedi un marché informel très fréquenté par les villageois. Les sources de la société civile locale et officielle indiquent que les recherches sont en cours pour retrouver les disparus et ce bilan pourrait s'alourdir. Irène Boma.
Le drame s'est produit samedi à la commune rurale de Dibaya Lubwe lorsqu'une baleinière en provenance des villages environnants effectuait des manœuvres d'accostage sous une pluie battante. Subitement, un pan de terre situé en bordure de la rivière Kasai s'est effondré sur l'embarcation. Cela a affecté à la fois les passagers à bord et les habitants de cette cité qui coulaient leur lessive au port. Le coordonnateur de la nouvelle société civile du territoire du Diofa, Arsène Kassiam, adresse un bilan provisoire de 11 morts, 7 blessés graves et de plus de 60 personnes portées disparues. Le député provincial Nikombuka Eli Diofa, quant à lui, parle de 10 corps sans vie retrouvés jusque-là et d'une cinquantaine de personnes toujours introuvables. Pour sa part, le gouverneur intérimaire du Kwilu, qui communique presque les mêmes bilans, exprime sa compassion envers les familles touchées. Félicien Kiwai affirme qu'une équipe est dépêchée sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation et annonce que lui-même va s'y rendre personnellement. Face à cette catastrophe, Félicien Kiwai en appelle à l'intervention du gouvernement central. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo. Le nouvel inspecteur provincial de l'agriculture compte instaurer une nouvelle gestion de ce service. Ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État basée sur la revanche du sol sur le sous-sol. Frédéric Afifi Apaka l'a déclaré hier lors de la cérémonie de son installation officielle par le ministre provincial de l'agriculture et environnement, Patrick Valencio Assoumani. Il se laisse guider par cette boussole, dit-il, et gagnera ainsi la confiance aussi bien des autorités politico-administratives, de la population paysanne ainsi que des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Frédéric Afifi Apaka dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
La revanche du sol sur le sous-sol, vision du chef d'État, comme l'un des piliers essentiels, exige un changement de paradigme de gestion des activités agricoles, d'autant plus que les enjeux environnementaux et anthropologiques compliquent l'application des mesures de l'agriculture classique. L'agriculture intelligente ou le management de l'agriculture et l'agribusiness devraient constituer la boussole de notre système de gestion. Une gestion basée sur les indicateurs de performance. Une gestion basée sur les risques spécifiques agricoles ou alimentaires. Ainsi, dans notre stratégie managériale, nous allons davantage promouvoir les valeurs cardinales, notamment l'innovation, le professionnalisme, l'intégrité, l'interaction, le patriotisme et le respect de la diversité. Voilà la nouvelle allure du changement de paradigme managérial dont nous avons la détermination et la ferme volonté d'instaurer dans la province afin de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, et mériter davantage la confiance de notre hiérarchie, des autorités provinciales, des collègues, des partenaires au développement et de la population, surtout paysanne, tout comme maraîchère.
Actualité internationale. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Iran et Israël s'accusent mutuellement d'être la menace pour la paix. L'Iran a affirmé hier à l'ONU n'avoir pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense en lançant des centaines de drones et des missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé toutes les sanctions possibles contre Téhéran.
L'invité.
Il s'agit de Giuseppe Angelini, membre de l'Union européenne, département des affaires humanitaires et protection des civils. Il est aussi responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale basée à Bruxelles. En séjour à Goma, il nous parle d'abord de l'objectif de sa mission au chef-lieu du Nord Kivu, mais aussi du financement de l'Union européenne, estimé à 70 millions d'euros pour des projets humanitaires dans la région des Grands Lacs. Il est avec Bernardine Diambou.
Monsieur Giuseppe Angelini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Union européenne dans le département des affaires humanitaires et des protections des civils basé à Bruxelles. Aujourd'hui, vous êtes à Goma. C'est dans quel objectif?
Moi, j'effectue une mission d'une semaine au Nord Kivu, au Sud Kivu, et j'ai passé aussi quelques jours à Kinshasa avant de venir ici pour me rendre compte directement de ce qui se passe sur les terrains, de la souffrance et des conditions souvent inhumaines dans lesquelles des centaines de milliers de déplacés congolais vivent actuellement, de ce que nos partenaires, agences des Nations Unies, organisations non gouvernementales, Croix-Rouge, mettent en œuvre sur place pour pallier à cette souffrance et à ces besoins humanitaires, compte tenu du fait que l'Union européenne a alloué en 2023 100 millions d'euros. Ça représente une augmentation budgétaire, parce qu'on avait commencé l'année avec 41 millions d'euros. Cette année, on démarre avec 70 millions d'euros. Et probablement, on fera plus en cours d'année. Ça reste quand même, par rapport à l'énormité des besoins, quelques gouttes dans la mer. Il n'y a jamais une solution humanitaire à un problème humanitaire. Ça, je le répète tous les temps. Les problèmes sont immenses dans tous les secteurs. La protection des civils, la sécurité alimentaire, l'eau et assainissement, la santé, la logistique, la situation des violences de genre et sexuelles dont sont victimes pour la plupart les populations déplacées. Ce sont tous des secteurs qui nous préoccupent. Les départs de la MONUSCO pourrait avoir des conséquences, si elle n'est pas bien préparée, elle pourrait avoir des conséquences en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger des violences, en réduisant l'espace humanitaire parce que l'insécurité pourrait augmenter et donc la présence des humanitaires en soutien des populations civiles pourrait être réduite, et aussi en termes d'infrastructures et de logistique.
Venez de palper du doigt la situation qui se passe ici ici au Nord Kivu, notamment celle de personnes vulnérables et déplacées. Quel constat faites-vous?
Les constats que j'ai faits, c'est que les conditions sont déjà inhumaines. Ce que nous avons vu hier dans 4 camps de déplacés, 3 sur l'axe nord et les camps de Lushagala sur l'axe vers Sake, c'est des conditions de vie inacceptables pour des êtres humains, que ce soit au niveau des abris, que ce soit au niveau de l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé et des bases. Donc ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est qu'il y a une présence d'armes dans les sites de personnes déplacées et ça pose de plus en plus de problèmes. La question de Wazalendo, c'est certainement quelque chose qui inquiète. Comment encadrer ces milices et aussi les positionnements d'artillerie. Par exemple, la semaine dernière, il y a juste une semaine, il y a eu un accident majeur dû au fait que l'artillerie était à proximité des camps. Donc ça, c'est un autre constat qu'on fait. Et puis, les conditions pourraient ne pas être propices pour une solution rapide et donc l'inquiétude d'un éventuel élargissement des combats, de la situation des violences en dehors de Goma, tant au nord qu'au sud du Nord Kivu.
Comme vous avez déjà visité quelques camps de déplacés aux alentours de Goma, quel est l'apport de l'Union européenne peut-être pour soulager cette population vulnérable?
On a déjà une allocation initiale de 70 millions d'euros. Mm-hmm. Les secteurs d'intervention sont multiples. On a la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement, la santé, la logistique, la protection et aussi les questions de violence sexuelle.
Les 70 000 euros, c'est uniquement pour le Nord Kivu?
Non, ça c'est pour l'ensemble de l'Est de la RDC. Donc, je dirais que 95%, voire plus, de notre budget est dépensé à l'Est du Congo. Parce que les conflits du M23 est actuellement le problème majeur à l'Est du Congo, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres situations problématiques pour lesquelles nous apportons aussi une aide humanitaire à travers de nos partenaires.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Voilà, c'était là notre invité Giuseppe Angelini de l'Union européenne qui répondait aux questions de Bernardine Diambo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.